En Galates, chapitre 1, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. La seule chose que j'aimerais ajouter par rapport à ce qu'on a dit donc dimanche, c'est cette petite phrase que tout ça s'est fait selon la volonté de Dieu. Donc, l'évangile est la volonté de Dieu. Là, on parle du Père de Jésus-Christ qui, en fait, a envoyé son Fils dans le monde pour que il soit crucifié pour nos péchés, donc ressuscité, et aussi de nous arracher de ce présent siècle. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas de nous laisser noyer, en fait, dans le mauvais siècle, mais de nous arracher, donner la vie. C'est pour ça justement que nous sommes tellement contents. Et donc en ce qui concerne même ces premières 5 versets, nous avons en quelque part une petite introduction bien concise de tout l'épître. Pratiquement tout ce qui est décrit plus tard vient un peu de là. Ensuite, ce qu'il y a est vraiment la raison pour laquelle il a écrit cette lettre. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre. Il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qui soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc la raison pour laquelle il nous a écrit cette lettre, c'est parce que il y avait des gens qui, en fait, ont troublé ces églises, ont prêché un autre message. C'est pas comme c'est une évangile alternative. Il dit non, il n'y a pas d'autre évangile. Et puis, il y avait beaucoup qui ont cru à cet évangile. Jusqu'au point où Paul, il s'étonne vraiment. Il s'étonne qu'ils ont pu écouter ceci. Encore, nous parlons donc des gens qui ne sont pas nés juifs. Et peut-être, en voyant les racines de l'Église, oui. Ils avaient envie de peut-être de vivre ça aussi et de connaître de plus en plus ça. Alors quand ces gens viennent de Jérusalem avec ce message, en parlant si bien ou je ne sais pas quoi, mais ils écoutent, ils y mettent vraiment leur foi. Et Paul, il s'étonne parce que l'évangile de Jésus-Christ est la chose la plus libératrice au monde. Il se détourne de la vie pour se tourner vers la mort finalement. Il va leur expliquer pourquoi. Et c'est pour ça aussi qu'il s'étonne. Tout allait bien. Plus tard, il va dire, mais est-ce que c'est en commençant par l'esprit que vous allez finir par la chair? C'est ça aussi. En se tournant vers un autre message, ils échangent tous leurs biens, toutes leurs richesses. Et c'est étonnant. Imaginons justement quelqu'un qui a des millions et des millions d'euros, puis il échange toute sa fortune pour un billet de loterie. C'est un petit peu la même chose. Sauf qu'il n'y a personne qui gagne autrement. Ils disent, je m'étonne que vous détourniez si vite. Même si ça a été d'après des plusieurs années, c'est déjà trop vite. Pardon. L'évangile de Dieu est un évangile éternel. Et donc, il doit être cru éternellement aussi. C'est détourné. Bon, il y a des moments où on pose des questions, on ne comprend pas tout, mais ce n'est pas la même chose que se détourner complètement. Et donc, il est intéressant qu'il dit que même si nous-mêmes, et ça montre que même un apôtre peut être en erreur, on va voir ça tout à l'heure, même si nous-mêmes, ou un ange venu du ciel annonce notre évangile, qu'il soit anathème. Alors, est-ce que ça manque de l'amour? Justement, est-ce que c'est un peu trop dur, anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit, qu'il soit condamné? Est-ce que ça manque de l'amour? Ben, mettons les choses un peu différemment. Si l'évangile de la grâce nous amène à la vie, c'est ça ce que ça fait, alors tout autre message nous amène loin de la vie, ou finalement vers la mort. Et puisque cet autre évangile vise à attirer les gens dans la condamnation, finalement, la personne qui prêche cet autre évangile n'est-il pas un prédicateur de la condamnation? Et la condamnation vers laquelle il attire les autres, est-ce qu'il ne la partage pas? Et ça serait juste, et c'est juste, si Dieu le fait. Parce qu'il cherche à assassiner spirituellement les autres. Finalement, la condamnation demeure sur lui. C'est pour ça qu'il le répète deux fois. Et d'ailleurs, je trouve presque ironique que c'était quelque chose qui s'est passé dans cette région de la terre. Encore, la Galatie se trouve en Turquie actuelle. Et la Turquie était autrefois grand fief de la chrétienté. Il y avait beaucoup d'églises, en fait, là-bas. Aujourd'hui, c'est parmi les pays où les chrétiens sont les plus persécutés. Et ce qui m'étonne encore plus, c'est que, en fait, ils sont passés à notre message. Un message, notre religion, qui, en effet, a été donnée par un ange à quelqu'un. Et là, je répète, même si nous-mêmes ou un ange du ciel vous a annoncé un évangile différent, je dirais que c'est presque la prophétie que Paul annonce là. Et donc, nous voyons que l'éternelle parole de Dieu est digne de confiance. C'est seulement quand nous nous éloignons qu'il y ait des problèmes de ce genre. Et pourquoi est-ce qu'il prend ce comportement ou cette tonalité si dure? Parce que il est le serviteur de Christ. Verset 10. Si son but était simplement de plaire aux hommes, il va leur dire exactement ce que ont dit les autres. Mais puisque son plus grand désir est de plaire à Dieu, il ne peut pas parler ainsi. Parce que Dieu voit la vie des gens à deux parts de la mort. Il voit un potentiel danger, des loups prêts à ravager le troupeau. Et Dieu ne veut pas fermer la bouche et laisser le carnage se passer. Donc Dieu envoie ses serviteurs. Il a envoyé Paul. C'est pourquoi Paul, il doit parler ainsi. Et ça, c'est pourquoi aussi, il y a des moments où, quand les gens sont dans, pas seulement la difficulté, mais en danger spirituel, il y a des moments où il faut parler franchement, parfois durement aussi. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même, je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour la tradition de mes pères. En fait, maintenant, il commence à s'expliquer pourquoi il a l'autorité venue du ciel, pourquoi il a cet évangile et pourquoi il ne veut pas baisser les bras en faveur de notre message. D'abord, ce n'est pas quelque chose qui a été enseigné, ce n'est pas comme il est allé dans un séminaire, par exemple. Il n'a pas fait Calvary Chapel Bible College. En fait, il a reçu ces choses de Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les enseignements de Paul, en fait, se retrouvent aussi dans l'Ancien Testament aussi. Mais c'est par révélation de Jésus à lui que ces choses sont devenues claires. Parce que pour la mentalité de son époque, lui, comme nous tous, je pense, était vraiment quelqu'un de son époque, de sa génération. Mais Dieu l'a sorti de ça afin qu'il puisse voir ce que c'est dans les Écritures. Et même, je dirais, voir encore mieux que Pierre, par exemple. Rappelons-nous quand le Seigneur l'a envoyé pour la première fois vers les païens, Pierre, il doutait justement de cet appel. Il ne comprenait pas. Alors que pour Paul, il va nous expliquer, il y avait tout un apprentissage et une préparation pour cet homme de Dieu. D'abord, ce n'était pas du tout son idée d'aller envers les non-juifs pour prêcher. En effet, tout au contraire, il était vraiment zélé pour la loi et la tradition des pères. Les traditions des pères étaient plutôt centrées sur Israël et les meilleurs des meilleurs. Donc, ce n'était pas du tout une idée en lui d'aller envers ceux qui n'étaient pas ni de sa race et surtout envers ceux qui, de toute façon, louaient des multitudes de divinités et pratiquaient tout ce que la loi de Dieu interdisait. Et justement, il était zélé, même excessivement, il a dit. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, alors grâce encore, cette faveur imméritée de Dieu, mais appelé pourquoi? Parce que normalement, lui qui a provoqué la mort, et surtout selon la loi pour laquelle il était tellement zélé, un œil pour un œil, une dent pour une dent, lui qui l'a exécuté tellement de monde à tort, selon sa propre loi, il mérite la mort. Or, il n'a pas reçu son juste jugement, il a reçu la grâce. Au lieu de la punition, de la condamnation, il a reçu un appel. Il a reçu promotion, si vous voulez, une augmentation de salaire éternel. Il a eu tout ce dont il ne méritait pas. Appelé donc par la grâce de Dieu, qui a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Effectivement, en Actes chapitre 9, nous donne pour lire tout de suite après sa conversion. Paul, ils se mettent à prêcher dans les synagogues et les gens sont étonnés de voir comment cet homme-là comprend tellement de choses. En fait, ça devient tellement scandaleux et ça fait tellement d'impact qu'il faut qu'il échappe par le mur en pleine nuit. Il n'a consulté personne. C'est pas Ananias qui lui a donné une bonne formation à l'évangile. C'était Jésus-Christ qui s'est révélé à lui. Et même rappeler les mots que Ananias avait lorsque Jésus parlait donc à lui, disait, je lui ai montré tout ce qu'il devait souffrir pour mon nom. Alors, verset 17, et je ne suis pas monté à Jérusalem. Normalement, quelqu'un qui veut se former, surtout à cette époque, il va à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie. Puis, je revins encore à Damas. Et ça, c'est intéressant parce que l'Arabie, en fait, ça parle d'une grande région de désert. Ça peut être simplement en dehors de Damas. Ça peut être aussi loin que le Sinaï. Ça peut être très, très loin. Et ce qui me touche, c'est que nous voyons les mêmes caractéristiques de l'œuvre de Dieu que nous voyons dans les vies de Moïse et Élie. Moïse qui a grandi dans les palais du roi, qui a fait une grande bêtise, mais que finalement, il s'échappe dans le désert madianite et pendant 40 ans, il ne fait rien d'autre jusqu'au jour où le Seigneur l'appelle dans le désert. Aussi, Élie, on ne connaît rien du tout de son passé. Un jour, le Seigneur lui apparut et puis il se lève, il annonce la sécheresse qui va frapper le pays et puis il cache pendant 3 ans et demi, d'abord dans le désert. C'est là où Dieu y travaille, dans le cœur des hommes. Et ça, c'est une chose assez forte. Parce que Moïse, Paul, Élie, ce sont des hommes forts. Tous les trois, j'imagine, ce sont des personnalités assez fortes aussi. Et comment Dieu emploie des moyens difficiles pour des gens qui sont peut-être un peu difficiles en eux-mêmes. Et ce n'est pas parce que Dieu est méchant, mais c'est parce que Dieu sait de quoi ils ont besoin, ce dont ils ont besoin. Et ils ont besoin de passer un peu de temps où personne ne les reconnaît. On n'entend pas parler d'eux. Lui sert le Seigneur fidèlement sans que personne ne dise rien. Et ça, c'est un véritable désert et c'est important. C'est là où Dieu commence à travailler dans le cœur de cette personne. C'est là aussi où Dieu commence à créer les qualités qu'ils vont utiliser plus tard. Et verset 18. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je suis resté 15 jours chez lui. Alors, on ne sait pas combien de temps en tout ça fait. Parce que c'est 3 ans plus tard, après qu'il rentre à Damas. Il y a un temps indéfini où il était en Arabie. Ça prend du temps justement de voyager en désert. Et puis, c'est après ça, imaginons que c'était simplement une année, donc on est déjà 4 années avant, après sa conversion, et il monte finalement à Jérusalem. Et ça, simplement pour 15 jours d'entretien avec Céphas, donc Pierre. C'est pas beaucoup. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Et en vous écrivant cela, voici devant Dieu, et je ne mens pas, je me rendis ensuite dans les contrées de la Syrie et la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de la Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire que celui qui était autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qui voulait alors détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. On n'est même pas encore au stade où Barnabas va trouver Paul et il l'amène à Tarse. Il va lui chercher et l'amener finalement Antioche. Nous sommes dans cette période de sa vie, un peu de l'inconnu. Qu'est-ce qu'il fait? Certainement, il étudie les Écritures. Il parle du Seigneur comme il a fait depuis le début, mais Nous savons que quand il était à Antioche, il n'avait aucun rôle de leader. Il était là parmi les autres. Puis, on peut très bien imaginer combien c'était dur aussi pour cet homme. Cet homme qui avait vraiment la vie de quelqu'un qui menait des choses. Ce n'est pas quelqu'un qui suit la foule, c'est le meneur des jeux. Mais il fallait qu'il s'humilie. Il fallait qu'il apprenne à suivre Jésus et à l'écouter. En fait, à refaire totalement sa vie et sa façon de suivre Dieu et de le connaître. Ensuite, 14 ans plus tard, alors là, on peut parler d'une vingtaine d'années finalement. Je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Et je pris aussi Tite avec moi. J'y montais par suite d'une révélation. C'est par cette petite phrase que nous pensons que ce n'était pas peut-être lors de la réunion en Actes chapitre 15. Parce que là, il est monté à Jérusalem parce qu'il y avait une dispute. Mais là, non, ça, c'est une révélation. Donc, c'est Jésus qui lui dit d'y aller. Il fallait qu'il aille. Il ne savait pas pourquoi. Et donc, il y va et je vais exposer l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en privé aux plus considérés. Alors que, en Actes chapitre 15, ça c'est devant tout le monde. Alors qu'ici, c'est plus privé. De peur de courir ou d'avoir couru en vain. Donc c'est plutôt une confirmation. C'est pas comme Paul, il compare ses notes avec eux, c'est pas comme il cherche vraiment leur approbation, mais il parle à eux après que maintenant l'œuvre est plus établie, justement pour confirmer les choses, et ça en privé. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les apôtres ou ceux qui furent, comme il dit, parmi les plus considérés, est-ce que eux aussi, ils étaient peut-être contaminés par cette idée qu'il faut repasser par la loi? C'est bien possible. Ce qui est aussi une chose assez étonnante et admirable chez l'apôtre Paul, c'est que il n'est pas là pour défamer les gens. Mais tout se fait en douceur et vraiment pour l'édification de tout le monde. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et je vous rappelle que c'est en Jérusalem où ça se fait. Timothée s'est fait circoncis, mais Tite, non. Timothée, ben, t'avais un parent juif. Mais Tite, non. Et Paul dit, ben, c'est même pas la peine de faire semblant. Tu es qui tu es. Et c'est tout. Parce que la grâce de Dieu nous sauve tel que nous sommes. Rappelons-nous en 1 Corinthiens chapitre 7, où Paul il parle du mariage. Mais en fait, il relève une chose aussi intéressante par rapport à l'état où nous sommes quand, en effet, nous sommes appelés. Verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu appelé en tant qu'esclave? Ne t'inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, prophétisant plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre a été appelé, est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas des esclaves des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Donc là, il parle d'une situation sociale et tout de l'époque, dit, bon, bien sûr, si vous êtes esclave et vous pouvez surtout chercher justement la liberté, mais ce qu'il veut dire, c'est si Dieu vous a appelé, c'est parce que vous avez des personnes autour de vous qui veulent toucher par votre vie. Et donc, si au moment de votre conversion, vous deveniez quelqu'un d'autre et que vous coupez tous les ponts, ça va être beaucoup plus difficile justement de toucher ces personnes. De la même manière, quelqu'un qui rencontre le Seigneur et qui n'est pas juif, ce n'est pas la peine qu'il devienne juif. De la même manière, quelqu'un qui l'est, ce n'est pas la peine qu'il devienne un non-juif non plus. Il est qu'il est. Et le Seigneur veut utiliser cette personne tel qu'il est pour toucher sa famille et ses amis. Et donc c'est pour ça que c'était même péché pour Tite de devenir quelque chose qu'il n'est pas. Parce que ce n'était pas ce que Dieu voulait quand il a appelé. Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus avec l'intention de nous asservir, nous leur avons cédé en un seul instant par soumission, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi nous, vous. Noté parmi vous. Donc, même s'il était vraiment au milieu de la polémique, il n'allait même pas s'arrêter et laisser la place à ces gens-là. Bon, il était quand même conscient de sa place aussi. Chaque fondement est ce qui permet les briques qui vont être posées, surtout après, de se tenir et de rester sur place. Si le fondement est mauvais, les briques ne peuvent pas se tenir. Et donc, il fallait, et nous sommes vraiment contents qu'il a resté ferme dans son résolu, dans sa conviction de la bonne doctrine, de la bonne évangile. Et ça, c'est pourquoi aussi, il y a des gens qui ont peut-être des limites de leur liberté en Christ. Et pour eux, c'est vraiment difficile de participer à une œuvre. À l'époque de Paul, c'était, par exemple, de manger des viandes sacrifiées aux idoles. De nos jours, ça peut être voir enfin, le cinéma, par exemple, ou écouter la musique, ou enfin, je sais pas, lire certains livres. Des choses qui sont permises, mais peut-être ne sont pas tout à fait édifiantes. Alors, ce qui est difficile, c'est que la personne qui est plus faible et qui doit se tenir, en fait, bien dans la voie, qui doit éviter certaines choses pour qu'il ne tombe pas dans le péché, il ne faut pas que cette chose devienne une loi ou une forme de légalisme. Et il ne faut surtout pas qu'ils projettent ce que le Seigneur leur a mis à cœur sur les autres. C'est ça aussi le légalisme. Et c'est justement ça qui pose problème souvent dans les églises, parce que du coup, si on projette sur les autres, où on juge les autres par rapport à nos propres libertés et par rapport à ce qui est réel en Christ, ça provoque des divisions, ça permet justement au diable d'infiltrer l'Église et provoquer beaucoup de mal. De la même manière, quelqu'un qui a certaines libertés de conscience, il ne faut pas qu'il en profite tellement qu'il choque et qu'il scandalise les autres aussi. Parce que c'est lui qui choque et scandalise les autres, les entraîne aussi potentiellement dans le péché, qu'ils peuvent leur pousser même jusqu'à pécher contre leur propre conscience. Et ainsi, la personne pêche, en réalité, contre le Seigneur, parce que il a dédaigné, si vous voulez, la conscience de l'autre. Donc l'équilibre entre la liberté chrétienne et l'égalisme est précaire, je dirais. Mais, c'est pour ça que Dieu nous couvre de sa grâce. C'est pour ça aussi que nous sommes censés à justement user de la grâce les uns envers les autres. Et pour ça, c'est la vie par l'esprit. Une autre chose aussi qui est expliquée plus tard dans cette merveilleuse épître. Quant à ceux qui paraissaient les plus considérés, ce qu'ils avaient été autrefois m'importe peu. Bon, il ne dit pas ça comme un rebelle. C'est pas comme il est méprise. Mais ce qu'il veut dire, c'est là, c'est que Dieu ne fait pas de considération de personne. Les plus considérés ne m'ont rien imposé. Donc, encore pour le contexte, il explique que son évangile est venu de Christ et pas les autres. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était imposé par Pierre, par exemple, ou Jean, ou Jacques, ou les autres. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car c'est lui qui, agissant en Pierre, en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi en vue des païens, et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi, en signe de communion. Ainsi, nous irions, nous vers les païens et eux vers les circoncis, nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. Et là, on pense surtout les pauvres à Jérusalem. Et donc, on se rappelle la collecte que Paul a faite parmi toutes les églises, et à quel point il était vraiment empressé, justement, d'amener ça à Jérusalem pour les frères à Jérusalem. Peut-être même cette idée que Paul avait à cœur était née lors de cet entretien-là, pour qu'il n'y ait pas un schisme, si vous voulez, entre l'église juive et l'église non juive, mais qu'ils soient un. Ils soient un dans leur richesse, ils soient un aussi dans la grâce, ils soient un dans Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, Pierre et Jacques et les autres, ils étaient contents, justement. Ils étaient contents de voir que Paul, il va vers les païens. Et c'est ça aussi ce qui est vraiment voulu dans ce discours. Ce n'est pas comme ils étaient opposés à son ministère. Plutôt, ils étaient d'accord, ils l'encourageaient de le faire. Qui montre quelle autorité il avait. Et ceci devient encore plus important lorsque nous lisons la suite. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamnable. Alors là, on pense peut-être que c'était avant que Paul va pour ses missions. Peut-être que c'était lorsqu'il était de retour d'une de ses missions. C'est pas encore clair. Mais c'était un de ces moments à Antioche. Pierre était là aussi. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, ils mangeaient avec les païens. Mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Crainte comment? La pression sociale, tout simplement. Comme lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Et c'est là que ça devient grave, parce que Barnabas était le compagnon de Paul dans son œuvre missionnaire. Et donc si Barnabas maintenant commence aussi à tomber dans cette même hypocrisie, ben, tous les non-juifs vont se dire, mais attends, Est-ce que, effectivement, ils ont raison quand je dis qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile? Je dis à ses faces, en présence de tous. Alors attention, ce n'est pas que Paul y était encore rebelle ou il manquait de respect. Et j'imagine que ça a été assez dur pour lui. Parce que le seul apôtre qu'il a vu, en fait, était lui. On peut très bien imaginer l'affinité qu'il avait entre les deux. Surtout en acte 15, lorsque Pierre parle pour Paul, ça montre le respect que ces deux hommes avaient l'un pour l'autre. Mais comme Pierre est un homme qui avait une certaine autorité et les gens le regardaient, donc il y avait une plus grande responsabilité. Ça, c'est pourquoi nous avons ça en Jacques chapitre 3. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Effectivement, toute personne qui parle pour le Seigneur, toute personne, soit pasteur ou surtout en tant qu'apôtre, on a un plus grand jugement. Et donc, à ce moment-là, puisque le péché est maintenant devenu public, si vous voulez, c'est comme un pasteur qui commence à prêcher devant tout le monde l'hérésie, en fait. Donc, Paul, il le dénonce, mais je trouve qu'il le dénonce quand même par amour. Il dit, si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs. Comment peux-tu forcer les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations. Sachant que l'homme est justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés. Par la foi en Christ, non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc, il commence, il parle à Pierre, mais en réalité, il parle à tout le monde. Et c'est pour ça que, désormais, le livre découle un peu de cette conversation. Et ça devient un peu pas très clair à qui il parle. En fait, c'est ça le cœur de ce qu'il voulait dire. C'est que, eux qui sont déjà dans le bain, eux, ils n'étaient pas purs. Ils ne pouvaient pas l'être non plus. Et même Pierre commençait à vivre de manière plus relaxe par rapport à la loi. Parce que, ayant goûté la grâce et la justification par la foi, il s'est relaxé d'une manière à ce qu'il n'essayait plus de prouver qu'il est juste devant Dieu. Simplement, il a accepté la justice de Dieu afin de vivre au Christ. C'est-à-dire qu'au lieu de faire attention à toutes les petites lois, comme font beaucoup qui veulent mériter le salut, justement comme par exemple, les athées qui font beaucoup d'œuvres bonnes, et puis le soirée, ils vivent dans la débauche. Donc, quelqu'un en fait qui est touché par la grâce, et quelqu'un donc qui ne fait peut-être pas tout à fait attention à toutes les petites choses, mais qui pratique plutôt la compassion, qui pratique l'humilité, les choses qui sont les plus importantes. Et puis, le reste suit. Exactement comme Jésus a enseigné. Par exemple, lorsque les pharisiens voulaient absolument qu'ils respectent le sabbat, Sans cesse, il leur rappelait des choses plus importantes. Par exemple, il y avait cet homme qui avait la main desséchée dans la synagogue même. Et Jésus a posé la question, mais est-ce qu'il est juste de faire du bien ou de faire du mal le jour du sabbat? Il regardait. Personne n'osait lui dire rien. Et puis, il guérissait l'homme, parce que c'était la chose qu'il fallait faire. Et donc, la justification, c'est un mot très important, technique, théologique, qu'il faut bien saisir, parce que ça parle en fait de notre salut. Ça parle aussi de notre identité, surtout dans une époque où nous parlons sans cesse de l'identité, l'identité de la personne qui suis, enfin. Mais si nous sommes en crise, voilà notre identité. Notre identité, c'est que nous avons la justice de Christ. Et ça marche comme ça. Parce que je reconnais qui je suis, pécheur, donc condamné par la loi. Je me répands. Et donc, je crois dans la justice parfaite de Christ. Dieu, et le mot justification, ça a une connotation économique. Dieu, en fait, il accrédite le compte de ma justice avec la justice de Christ. Donc, pour le mettre dans les termes financiers, c'est comme Dieu m'écrit un gros chèque de 3 milliards d'euros dans mon compte en banque. Quand c'était débitaire, autant au moins. Et ce n'est pas mon argent, pourtant. C'est l'argent de Christ. Pourtant, c'est dans mon compte. Donc, qui suis-je? Qui est mon identité aux yeux de Dieu le Père? Il me voit juste. Juste comme je n'ai jamais péché. Je suis justifié. Et ça ne se passe pas par la loi, mais par la foi. Et Pierre, pardon, Pierre, il le savait déjà. Il vivait de façon qui montrait qu'il le savait. Sauf quand il y avait certaines personnes. Mais voilà le problème. Et voilà le problème, en fait, de ceux qui étaient de l'opposition. Verset 17. Mais si, en cherchant à être justifiés par Christ, nous étions, nous aussi, trouvés pécheurs, Christ serait donc serviteur du péché. Donc, ce qu'il disait, en fait, c'est que si vous vivez à manière des païens, c'est comme vous jetez le nom de Christ dans la boue. Il dit, si vous êtes justifié donc en Christ et vous vivez comme des non-juifs, donc comme des pécheurs, donc ça fait de Christ le ministre ou le serviteur des pécheurs, le serviteur du péché même, puisque vous vivez ainsi. Vous ne glorifiez pas le nom de Christ. Et Paul dit, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai, en cherchant à être justifié par Christ, nous qui sommes trouvés pécheurs, que c'est ça, être justifié. J'étais pécheur, je suis pécheur, mais je suis justifié par Christ. Et puisque je suis trouvé, donc, à vivre comme des non-juifs, est-ce que ça défame le nom de Christ? Est-ce que donc Christ est le serviteur du péché, puisque je ne vis plus selon la loi de Moïse? Est-ce que c'est ça ce qui est vrai? Non, il dit. Non, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, qu'est-ce qu'il a détruit? Il a détruit cette idée qu'il faut vivre 100% par la loi pour être juste aux yeux de Dieu. Donc si je commence à rebâtir tout ça, je me constitue moi-même transgresseur. C'est-à-dire, si je reviens en arrière, c'est comme les Legos, si vous voulez. Je détruis tout ça, Donc, je reviens et je me rebâtis avec ces mêmes Legos. Ça devient la même chose que c'était avant. J'étais pêcheur avant. Si je reviens en arrière et je me rebâtis en tant que tel avant, il n'y a rien qui change. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Aujourd'hui, nous sommes sauvés par la justice de Christ. Et si je reviens pour faire mon propre truc et pour me bâtir selon la justification de moi-même, je tombe dans le même péché. Et pourquoi? Parce que je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ça va contre la nature, la nouvelle nature que nous avons en Christ. Cet ancien homme qui devait mériter son salut, il est mort. Et si je reviens donc un mourant marchand, si vous voulez. C'est reprendre la mort sur soi. Non, la vie que je vis maintenant, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Donc si c'était possible de glorifier Christ, de glorifier son nom, une vie qui est splendidement en accord avec la loi, qui est une chose tout à fait impossible de toute façon, Christ est mort. Christ, il a dit lui-même, je ne suis pas venu pour les justes. Il a dit, le Fils de l'homme, en Marc 10, 45, en fait, est venu pour donner sa vie en rançon pour les gens. En fait, si quelqu'un veut être sauvé, il faut qu'il reconnaisse qu'il est pécheur. Et donc, c'est ainsi que Christ est glorifié. Christ est glorifié par les pécheurs qui sauvent, qui purifient et qui nettoient. Parce que ces gens-là l'aiment. Et ceux, ces soi-disant justes, qui veulent mériter quelque chose, eux, en réalité, ils veulent se montrer. Ça, c'est pas l'amour de Dieu, ça. Justement, ce sont les gens comme ça qui font le plus de mal à l'image de Christ que par les simples gens qui sont nettoyés et purifiés par la grâce. Parce que ça attire les gens. C'est ça qui est différent. C'est ça qui change tout. C'est ça la puissance de la grâce. Et ça, c'est pourquoi ce n'est pas du tout à rejeter. La grâce est pour vivre. Pour vivre dans la grâce, il faut reconnaître donc qui nous sommes. Pécheurs, ok, mais justifiés. Et ce n'est pas ma justice, c'est la justice de Christ. Et en saisissant ça, ça nous remplit d'un cœur de gratitude et d'amour. Et ça nous donne un peu de repos. Parce que quelle était justement l'invitation de Christ? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donne du repos. C'est ça le repos. Vous laissez à côté tous ces vaines luttes et besognes afin de reprendre simplement la grâce libératrice de Christ.